et par actualité.
Avril 2018, en remplacement d'Hélène Denis pour la prochaine demi-heure, François Brodeur. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas seul à la barre puisque Anne-Laure Janson a signé la recherche et que Jean-Sébastien Laliberté va s'occuper de la mise en onde. En manchette, aujourd'hui, on parle de performance dans les CHSLD, du partage des données médicales, de santé mentale, de formation en éducation spécialisée à Matane et en entrevue, on revient sur le défi Altergo ainsi que sur les activités de la gang à Rambrou. Et ça, ça commence dans un instant. D'abord, parlons CHSLD, alors que le Huffington Post consacre un texte à leurs performances respectives. Avec les mêmes moyens, les CHSLD privés font beaucoup mieux que les publics, note l'Institut économique de Montréal, l'Institut étant un organisme connu pour ses opinions conservatrices. Le vieillissement de la population représente l'un des plus grands défis de l'histoire du système de santé québécois et les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD, sont parmi les établissements où la pression démographique se fait le plus ressentir. Or, dans une note publiée jeudi, l'Institut économique de Montréal indique que l'État possède déjà une bonne partie de la réponse au problème, mais il semble réticent à l'utiliser. La solution, selon l'Institut, les CHSLD privés conventionnés. Ces établissements sont gérés par des entrepreneurs, mais financés directement par l'État. À l'heure actuelle, sur les 432 établissements financés par Québec, 62 sont gérés par des intérêts privés. Patrick Derry, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, a analysé les rapports de visite d'évaluation du ministère de la Santé et des Services sociaux effectués dans près de la moitié des CHSLD du Québec. Les disparités entre les performances des établissements privés conventionnés et des établissements purement publics sont frappantes. Pourtant, la clientèle, les conditions de travail, les modalités d'accès, les coûts d'hébergement et le financement sont identiques pour les deux types d'établissements. L'esprit entrepreneurial, avec un gestionnaire sur place qui prend des décisions et qui peut s'ajuster plus rapidement aux besoins de sa clientèle, fait une différence énorme. Dans la presse, un texte intitulé « Le partage des données médicales des Québécois sauverait des vies ». Les Québécois gagneraient à être moins frileux avec leurs données médicales. C'est le cri du cœur de chercheurs en santé convaincus qu'ils révolutionneront les soins et sauveront des vies si on les laisse analyser massivement ce genre d'informations cruciales. Après sa première greffe cardiaque, Sylvain Bédard a gravi un sommet de 6120 mètres pour faire résonner un message. Le don d'organes évite de dépérir et de mourir. Aujourd'hui, le Montréalais a un peu l'impression d'être au pied d'une nouvelle montagne, car il embrasse une nouvelle cause plus délicate. Il veut convaincre les Québécois de lever le voile sur leurs données médicales. Les chercheurs en santé en ont besoin pour faire des découvertes cruciales qui pourraient, elles aussi, sauver des vies, plaide-t-il. Les citoyens ont peur d'être identifiés indirectement et que ça leur nuise. Les fonctionnaires ont peur de faire une erreur en les transmettant aux chercheurs. Mais pour moi, la plus grosse erreur, c'est de ne pas agir. On perd des occasions extraordinaires. Demain, M. Bédard se joindra à la quinzaine de conférenciers québécois et européens invités au premier symposium sur l'accès aux données et les systèmes de santé apprenant, organisé à Longueuil par l'Université de Sherbrooke. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs pourraient analyser massivement et rapidement le contenu très riche de millions de dossiers médicaux, disent-ils, voire recouper les informations que contiennent ces dossiers avec d'autres renseignements intéressants sur la pollution, le niveau d'éducation, etc. Il n'y a probablement pas de plus grande injustice médiatique au Québec que la couverture offerte au défi Altergo. Il y a encore plein de Québécois qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et pour faire un retour sur la dernière édition, j'ai avec moi, au téléphone, Monique Lefebvre, qui est directrice générale d'Altergo et fondatrice du défi sportif Altergo. Madame Lefebvre, bonjour.
Bien le bonjour à vous.
Comment allez-vous?
Je suis en pleine forme, le cœur content, une grande réalisation humaine, une grande solidarité qui a permis à des athlètes de se dépasser et de donner des performances extraordinaires.
Oui, et à des gens d'aller à leur rencontre aussi, parce que je me rappelle avoir à ce micro, avoir interviewé notamment plusieurs intervenants qui en revenaient tout simplement pas de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu. Je pense à Hugo Girard notamment, qui était très ému. Oui. Parlez-nous de cette 35e oui. édition.
Bien, vous parlez des intervenants que vous avez reçus. Vous avez reçu Pierre Mainville, un athlète de haut niveau en escrime.
Oui.
Ben, Pierre nous a fait vivre un événement vraiment extraordinaire. Il a gagné la médaille d'or au sabre. Alors, c'était notre première médaille d'or en escrime depuis qu'on organise la Coupe du monde. Puis, elle n'est pas venue seule. Il y a un autre athlète aussi, Roussel, qui a gagné une médaille d'or. Alors, le fait que ça se tienne à la maison, que les amis, les proches, la solidarité qui a été donnée à l'équipe canadienne d'escrime, bien, je pense qu'on a eu des résultats fabuleux. Mm-hmm. Alors, vous pouvez deviner la joie et la fierté de ces escrimeurs d'avoir gagné à la maison leur première médaille d'or. Alors, ça fut vraiment un coup de cœur pour toute l'équipe de l'organisation du défi sportif, puis même des athlètes des autres sports, de voir des Québécois se donner à fond, puis de gagner après autant de travail.
Et là, on parle d'une compétition mondiale très relevée. Là, c'est pas un oui. championnat québécois ou régional, c'est vraiment non. les meilleurs au monde qui étaient là.
Exactement, les meilleurs au monde. Il y avait 18 pays qui étaient représentés pour cette compétition. Alors, c'était vraiment relevé, puis on voit aussi que l'an prochain, on organisera une autre Coupe du monde qui sera aussi relevée, sinon plus. Alors, c'était vraiment une année formidable, puis écoutez, on a pu voir dans cette année-là toute la force de l'organisation. Le défi a le titre de plus grand événement multisport au Canada, puis je pense qu'on l'a encore mérité cette année, puis avec un dépassement spectaculaire, 7400 athlètes grâce au travail de 1300 bénévoles. Alors, écoutez, vous avez dit d'entrée de jeu, il faut faire connaître davantage le défi sportif.
Ah oui, c'est une grande injustice, ça n'a aucun sens.
Oui.
Là. C'est l'événement sportif le plus majeur au Canada.
Oui.
Et c'est à peu près pas connu.
Oui. Alors, merci de nous faire une place à votre tribune. Puis moi, ben, j'en profite pour inviter vos auditeurs à venir, à préparer leur venue au défi sportif et aussi, surtout, à penser peut-être à faire du sport eux-mêmes.
Mm-hmm.
Parce que on n'y pense pas souvent quand on vit avec une limitation, on pense que c'est pas possible. Ben, le défi sportif, il démontre à la population que c'est possible. Puis aussi, on veut démontrer aux personnes qui ont des limitations que le sport peut changer sa vie, ça change sa perception de soi-même. Puis ce qu'on voit au défi sportif, c'est toute la fierté que bouger apporte. Ça apporte une fierté, ça apporte vraiment une façon d'être mieux dans sa peau. Alors, faut pas hésiter. Puis Altergo, le défi sportif Altergo, on est là pour aider les gens à avoir accès à des programmes, les référer à des organisations. Donc, il faut absolument pas attendre une année. Il faut penser à bouger maintenant puis en profiter.
Oui, Hugo Girard me disait, ça m'avait marqué, que d'assister à ces compétitions-là, ça l'avait amené à ne plus voir que le handicap, mais à voir l'athlète, à voir la personne derrière, puis à voir la joie et le bonheur que ça peut apporter.
Absolument. Puis si vous me disiez, bon, c'est une image à retenir du défi de cette année, je dirais un petit mot, vive l'accessibilité universelle. Parce que maintenant, on voit que les programmes sont de plus en plus accessibles. Et quand il y a des gens qui ont accès au sport et loisirs, ben, ils vont puis en profitent. Parce que accueillir quand même 7400 personnes qui vivent avec une limitation, qui font du sport, c'est quand même assez unique au monde. Là. Il n'y a pas d'autres organisations qui font ça, à part les Jeux paralympiques aux 2 ans qui reçoivent, pas aux 2 ans, mais aux 4 ans, les Jeux d'été qui reçoivent 10 000 athlètes. Alors, quand on donne accès aux personnes handicapées à des services, ben, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, développer leur talent, puis aller plus loin. Alors, c'est ce qu'on veut démontrer avec le défi sportif, qu'il n'y a pas de limite, pas d'excuse.
Et vous êtes même allé encore plus loin cette année, en permettant à des gens qui n'avaient aucun handicap d'essayer ces sports-là. Et
oui.
Éventuellement d'expérimenter toute la difficulté qu'il y avait à les pratiquer. Ça a été couru?
Oui, absolument. Ben, c'est ce qu'on appelle la zone d'essai d'Auto-Québec. Mm-hmm. Alors, on permet aux gens d'essayer plus d'une dizaine de disciplines. Alors, les gens peuvent essayer du goalball, du hockey luge, du basketball, du rugby, du volleyball assis, du curling. Vraiment, c'est un endroit public où plusieurs milliers de personnes, surtout des jeunes, sont venus expérimenter les sports puis briser entre guillemets, la glace. Et aussi, en même temps, s'apercevoir que c'est pas aussi simple qu'on pense.
Ah non, effectivement. Parce
qu'il faut garder parfois son équilibre, il faut être précis quand on regarde le boccia. Alors, pour le défi sportif, c'est vraiment une belle occasion d'avoir un contact avec le public, de sensibiliser les gens à ces différentes disciplines, parce que chacun a des talents, puis c'est de trouver ce qui nous passionne, puis de faire une rencontre avec la personne puis son sport. Puis une fois que le coup de foudre est déclenché, ben c'est une motivation pour mener une vie active et plus heureuse.
En terminant, Mme Lefebvre, si je vous demandais, là, vous avez une image à retenir de cette 35e édition, là. Qu'est-ce qui vous vient en tête?
La force du dépassement de soi. Moi, j'ai vu pendant une semaine de temps des gens sourire, être heureux, contents, même dans la défaite. Alors, quand on bouge, on dégage en dedans de soi des hormones qui créent du bonheur. Et c'est ce que j'ai vu durant la semaine, puis que je souhaite que de plus en plus de gens aient accès au plaisir de bouger, vivre le dépassement de soi.
Eh bien, Mme Lefebvre, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une 36e édition encore plus effervescente et une longue vie au défi Altergo. Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Sur la scène régionale en santé mentale, une enquête de location soulève des questions, c'est ce que rapporte Radio-Canada. Un propriétaire de logement de Sherbrooke, échaudé par de mauvaises expériences, soumet de potentiels locataires un questionnaire, dans lequel on demande s'il souffre d'une maladie mentale. Cette démarche, qui est interdite par la Charte des droits et libertés, fait sourciller les organismes de défense des droits. Le propriétaire en question, Martin Jacques, soutient que c'est afin d'être mieux outillé qu'il fait remplir ce questionnaire aux gens intéressés à louer l'un de ses 700 appartements. Ce dernier affirme que depuis 25 ans, il a affaire à de plus en plus de gens atteints de diverses problématiques de santé mentale. Les réponses à ces questions ne visent pas à discriminer les gens. Au contraire, on a un taux d'occupation important de locataires qui sont suivis. Ce que l'on cherche à faire, c'est de recueillir suffisamment d'informations pour être en mesure d'aider, d'intervenir rapidement et de communiquer avec les services régionaux en cas de crise, se défend-il. Pour appuyer ses dires, Martin Jacques raconte qu'un de ses locataires, qui est aux prises avec des problèmes de consommation, a été arrêté par les policiers alors qu'il tirait sur des passants avec une carabine à plomb. Alerté, le propriétaire a immédiatement contacté la mère de son locataire pour l'aviser de la situation. Même si ce type de question est rarement posé aussi directement, plusieurs propriétaires hésitent à louer leurs appartements à des gens ayant des troubles de santé mentale, selon la directrice de l'organisme L'Accordé, Brigitte Campeau. Ici Radio-Canada rapporte aussi que la formation en éducation spécialisée à Matane existe pour pallier au manque de personnel. Une formation en éducation spécialisée sera offerte dès septembre à Matane par Groupe Collégia. Cette offre est venue de nombreuses demandes du milieu. Selon Sophie Huppé, conseillère à la formation pour Groupe Collégia, secteur de Matane, on observe une pénurie de personnel sur le territoire et partout ailleurs. Madame Huppé ajoute que la dernière cohorte de cette formation a gradué en 2011 à Sainte-Anne-des-Monts et que 96% des diplômés ont trouvé un emploi. Elle explique que la clientèle visée par les éducateurs spécialisés est très vaste. Les éducateurs spécialisés, ça couvre une clientèle de 0 à 100 ans, précise-t-elle. Ils vont participer à l'éducation, la rééducation ou l'accompagnement de personnes en difficulté. Ils peuvent travailler dans les centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience physique, mentale ou en dépendance et aussi dans les écoles à tous les niveaux. Ils peuvent aussi travailler dans les centres de la petite enfance auprès d'enfants avec un besoin particulier. Ils œuvrent aussi dans les centres de réadaptation en dépendance. Au terme de cette formation de 21 mois, les finissants obtiendront une attestation d'études collégiales, un AEC, soit une formation semblable au diplôme d'études collégiales de 3 ans, mais qui exclut les cours de base, le français, l'éducation physique et la philosophie. On rejoint sans plus attendre la directrice de la gang à Rambrou, Suzanne Beaulieu. Madame Beaulieu, bonjour.
Bonjour, Monsieur Brodeur.
Vous allez bien?
Oui, et vous?
Ah, merveilleusement bien, merci. La gang à Rambourg, on s'était déjà parlé, il me semble. Vous êtes une amie de cette émission. Et vous avez aussi parlé à ma collègue le 9 janvier. Et à ce moment-là, vous aviez un projet pour lutter contre l'intimidation. Est-ce que ce projet-là a avancé beaucoup?
Oui, bien, notre défi, c'est de rallier des partenaires qui avaient une certaine expertise dans le domaine, qui pouvaient nous aider à bâtir le programme. Alors, on a eu la rencontre du premier comité jeudi dernier et c'est vraiment confirmé. Nous avons les directeurs de l'école François-Michel, un professeur en éducation spécialisée du Collège La Salle, un professeur, un chercheur de l'UQAM, Jean Orvin, un vidéaste, Éric Jalbert, Isabelle Mollier-Dupardy, Monique Rondeau qui est psychologue clinicienne, Manon Roussin du Centre François-Michel, puis M. Guichapy, puis des organismes communautaires de Révanie qui vont se joindre. Et que ça fait une belle brochette de gens experts qui sont capables de parler de l'intimidation.
Et qui vont vous aider éventuellement à poursuivre votre mission. Mais là, je réalise que je suis allé un peu rapidement.
Excusez-moi.
Je vous ai peut-être pas permis d'expliquer à nos auditeurs ce que la gang à Rambourg faisait.
Nous, on est un organisme qui utilise les arts, toutes les formes d'art auprès d'une clientèle qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ils peuvent aussi avoir d'autres handicaps associés, handicap physique, handicap visuel.
Et il faut se le dire aussi, ici, une école secondaire, si on est différent un peu, on s'expose énormément à être une victime dans un monde intimidant.
Très, oui. Puis moi, j'ai des histoires pathétiques de mes clients adultes qui racontent comment juste être exclu d'activités ou d'être mis à part, c'est blessant. Comment ça a touché leur estime de soi. Certains d'entre eux ont des troubles de comportement, ils ont des états dépressifs à répétition. C'est vraiment malheureux. Puis, pour nous, c'était important de mettre en place quelque chose qui les habilite très rapidement à se prémunir de l'intimidation, à la nommer, puis à la reconnaître, puis à la refuser, puis à faire agir adéquatement pour pas que ça vienne les blesser
Mais
plus que
dans le
nécessaire.
cas particulier du projet que vous faites avancer actuellement, je me trompe, ou il s'agit autant d'outiller les intervenants, d'aider les intimidés et d'informer les intimidateurs aussi?
Exactement.
Donc, c'est un projet à plusieurs volets.
Oui. Il va avoir, dans le fond, il va avoir comme un premier guide qui s'adresse aux intervenants, aux parents, tous ceux qui sont intéressés, comme une revue scientifique des écrits par rapport à l'intimidation puis à ses effets. Il va avoir aussi, parce qu'on trouve qu'il y a des outils très intéressants dans le monde des médias, une revue cinématographique où on va trouver des films ou des séries qui vont parler d'intimidation puis qui vont aider les gens à adopter de bonnes solutions.
Qui sont vos partenaires dans cette épopée-là? Parce que c'est quand même un projet majeur qui risque
Oui.
de s'étaler sur beaucoup, beaucoup de temps.
Je les ai nommés au début, là, c'était le collège, l'école France, deux directeurs de l'école François-Michel, M. Chaput et Mme Roussin. On a aussi Réal Daigneault du programme, professeur en éducation spécialisée au Collège La Salle. Sylvie Gravel, qui va coordonner le projet avec moi, qui est de Saint-Plicom. Jean Orvet, qui est professeur en éducation et formation spécialisée à l'UQAM. Il est chercheur aussi, Jean. Il s'intéresse à comment les gens apprennent c'est quoi les stratégies d'apprentissage pour les personnes qui sont adultes avec un handicap intellectuel. Il va y avoir Éric Jalbert, qui est un vidéaste. Isabelle Mollier, qui est la coordonnatrice de Pardi. Monique Rondeau, qui est psychologue à la retraite maintenant. Manon Roussin, qui est directrice secondaire premier cycle du Centre François-Michel et quelqu'un de l'organisme Révalu.
beaucoup de personnes donc qui donnent de leur temps. Est-ce qu'il y a des apports aussi en termes de ressources? Je pense à des organismes qui subventionnent ou soutiennent le programme.
Oui, c'est soutenu par le ministère de la Famille. C'est grâce à une subvention reçue du ministère de la Famille dans le cadre du programme d'intégration qu'ils ont lancé. C'est eux qui financent en grande partie le projet. Sinon, tout le monde est bénévole là-dedans à donner du temps et leur expertise.
En terminant, parce que je m'en voudrais qu'on n'ait pas le temps d'aborder le fantôme de Cartierville.
Oui.
Et ça, il faut en parler parce que ça s'en vient, puis c'est quelque chose à voir.
Oui, c'est au mois de juin à la Maison de la Culture Mercier, les 16 et 17 juin, le samedi et le dimanche. Peut-être c'est le 17, 18, là, j'ai pas mon calendrier devant moi.
En fait,
Et
oui, c'est le 17 et le 18.
le 17 et 18 juin, c'est une pièce qui est démarrée de l'œuvre de Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Mais nous, on a rajouté beaucoup de personnages, on a rajouté des scènes, on a rajouté des éléments de décor qui sont pas dans la version. Nos décors sont fabriqués à la Gagnarambou, les costumes également. Et puis le théâtre, ben, on le fait avec les gens. Il va y avoir une chorale aussi. Alors, c'est un beau projet, c'est une pièce humoristique qui avait pas de thème particulier parce qu'à chaque année, on a un thème, mais quand on le fait, la différence est encore un thème. Et puis des fois, les personnes handicapées sont des fantômes dans la société.
La distribution, les coulisses, donc, ce sont tous des personnes qui présentent un handicap.
Oui, avec des comédiens bénévoles aussi, puis ils jouent avec eux dans la scène, les choristes aussi. Notre idée, c'est de faire de l'inclusion. Alors, on en fait aussi un peu dans notre théâtre.
Et si on veut se procurer des billets?
438-333-4264.
Bien, Madame Beaulieu, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à vous laisser le mot de Cambronne, tiens, c'est plus poli à la radio.
Ben oui.
et
J'espère vous voir à la pièce.
ben, j'espère pouvoir y aller aussi. Merci.
D'accord. Merci.
On reste dans le théâtre pour aborder un texte d'Acadie Nouvelle, du théâtre pour sensibiliser le public à la réalité des aveugles. Sous la direction de Pierre Chicoine de la troupe de théâtre amateur L'Académie de Beresford, des personnes aveugles présentent la pièce de théâtre Grandir dans la différence. Blondine Arsenault de la Fondation Mira a toujours eu envie de faire du théâtre. Elle a décidé de briser le silence afin de réaliser son rêve en invitant Nathalie Fugère et Thérèse Hébert, des non-voyantes, ainsi qu'une comédienne voyante, Rachel Bernard, à se joindre à elle pour monter la pièce. Un bon matin, je me suis réveillée et je me suis dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je vais créer ma propre troupe de théâtre qui ne sera composée que de personnes aveugles. Pour Madame Arsenault, le théâtre est un excellent médium pour démystifier certaines des croyances qui existent sur les personnes aveugles. On veut que les gens réalisent que malgré notre handicap, on est capable de fonctionner normalement. C'est important de ne pas se mettre des barrières à cause de notre handicap. Il y a encore des gens qui pensent que nous ne pouvons pas occuper un emploi, de mentionner Madame Arsenault. La pièce Grandir dans la différence raconte l'histoire de trois aveugles qui suivent un atelier pour mieux se débrouiller dans la vie de tous les jours. Toutefois, la personne qui donne l'atelier s'aperçoit qu'ils peuvent se débrouiller aussi bien qu'elle. Des fois, on dit que cette personne est aveugle et qu'elle fait pitié. C'est sûr qu'on est tous différents, mais à travers le handicap, on grandit dans la vie, déclare Madame Arsenault. Le droit à Ottawa, en fait Ottawa-Gatineau, publie un texte intitulé « Un pas de plus pour le carrefour santé d'Orléans ». Un pas de plus a été franchi pour mener à la création du nouveau carrefour santé d'Orléans. Les architectes ont soumis des plans plus précis et 5 sociétés ont été présélectionnées afin de construire et financer le projet. Plus ça va, plus les plans sont précis, ce qui permet aux architectes de faire des esquisses plus précises de ce que l'édifice aura l'air, se réjouit Lise Vaillancourt, directrice du projet. Ça devient de plus en plus concret, de plus en plus près de la réalité. Lorsque les plans et devis seront complétés d'ici le mois d'août, l'étape des appels d'offres suivra. Les 5 compagnies décideront si elles veulent aller plus loin dans le processus en déposant une soumission. Les responsables du projet sélectionneront un soumissionnaire qui sera désigné pour développer et construire le Carrefour Santé d'Orléans. La construction de la clinique, attendue depuis une décennie, pourrait prendre de 18 à 24 mois. La première pelletée de terre n'aura pas lieu avant 2019. Ça avance à un rythme accéléré. Les gens ne le voient pas parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais pour vrai, c'est un projet qui a beaucoup d'attention de la part du ministère. Ça fait longtemps qu'on en parle et tout le monde veut voir la fin, confie Mme Vaillancourt. Le Carrefour Santé d'Orléans sera érigé à l'angle du chemin Mer Bleue et du boulevard Bryan-Coburn. Le centre offrira une gamme variée de services dans les deux langues officielles, comme une clinique ambulatoire, de l'imagerie diagnostique, des soins de réadaptation et des services en santé mentale. L'objectif est d'accueillir 160 000 visites par année. En France, du site En Direct, Rage d'exister, un livre qui évoque la vie avec le handicap, mais pas que. Dans cet ouvrage, Philippe Aubert, invalide moteur cérébral atestosique, raconte ses différents combats menés contre les institutions, ses rencontres bonnes et mauvaises, ses voyages, ses études, ses amis, ses sorties, la vie avec le handicap, mais surtout la vie tout court. Je m'appelle Philippe Aubert, j'ai 37 ans et je suis invalide moteur cérébral atétosique. En d'autres termes, je suis rivé à un fauteuil et j'ai besoin d'aide pour le moindre geste de la vie quotidienne. Me lever, me coucher, me nourrir, faire ma toilette, lire, écrire, aller au cinéma, boire un verre avec des amis, voyager. De moi, on ne comprend de prime abord que le rire, je n'en suis pas avare, et pour peu qu'on y prête attention, mes enthousiasmes et mes refus. Pour le reste, mes interlocuteurs doivent s'armer de patience et me décrypter lettre après lettre, mot après mot. Certains maîtrisent mon code, l'épellation. Avec les autres, je coiffe ma licorne, un casque doté d'une antenne grâce à laquelle je parviens au prix d'efforts à désigner des lettres sur un panneau fixé devant mon fauteuil. Cet ouvrage évoque la vie avec le handicap a été réalisé en binôme avec Sophie Jacolin, ce qui a donné lieu à des centaines d'heures d'écoute et de décryptage, ce qui apporte d'autant plus de valeur aux fruits de ces échanges. Rage d'exister, Philippe Aubert et Sophie Jacolin aux ateliers Henri Dougier, 128 pages. Et voilà qui conclut cette édition du 30 avril 2018 des Paractualités. Je rendrai demain ce micro à sa titulaire Hélène Denis. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Merci à vous.